Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 1, suite 5. Ainsi, de ce Paris des profondeurs nocturnes, duquel avait déjà émané jusque dans ma chambre, mesurant le rayon d'action d'un être lointain, une voix qui allait surgir et apparaître, après cette première annonciation, c'était cette Albertine que j'avais connue jadis sous le ciel de Balbec, quand les garçons du grand hôtel, en mettant le couvert, étaient aveuglés par la lumière du couchant, que, les vitres étant entièrement tirées, les souffles imperceptibles du soir passaient librement de la plage, où s'attardaient les derniers promeneurs, à l'immense salle à manger, où les premiers dîneurs n'étaient pas assis encore. Et que, dans la glace, placée derrière le comptoir, passait le reflet rouge de la coque, et s'attardait longtemps le reflet gris de la fumée du dernier bateau pour Rivebelle. Je ne me demandais plus ce qui avait pu mettre Albertine en retard. Et quand Françoise entra dans ma chambre me dire « Mademoiselle Albertine est là !» Si je répondis sans même bouger la tête, ce fut seulement par dissimulation. « Comment, Mademoiselle Albertine vient-elle aussi tard ?» Mais levant alors les yeux sur Françoise, comme dans une curiosité d'avoir sa réponse, qui devait corroborer l'apparente sincérité de ma question, je m'aperçus, avec admiration et fureur, que, capable de rivaliser avec la Berma elle-même dans l'art de faire parler les vêtements inanimés et les traits du visage, Françoise avait su faire la leçon à son corsage, à ses cheveux, dont les plus blancs avaient été ramenés à la surface, exhibés comme un extrait de naissance, à son cou courbé par la fatigue et l'obéissance. Il la plaignait d'avoir été tiré du sommeil et de la moiteur du lit, au milieu de la nuit, à son âge, obligé de se vêtir 4 à 4, au risque de prendre une fluxion de poitrine. Aussi, craignant d'avoir eu l'air de m'excuser de la venue tardive d'Albertine. « En tout cas, je suis bien content qu'elle soit venue. Tout est pour le mieux. » Et je laissai éclater ma joie profonde. Elle ne demeura pas longtemps sans mélange quand j'eus entendu la réponse de Françoise. Celle-ci, sans proférer aucune plainte, ayant même l'air d'étouffer de son mieux une toux irrésistible, et croisant seulement sur elle son châle comme si elle avait froid, commença par me raconter tout ce qu'elle avait dit à Albertine, n'ayant pas manqué de lui demander des nouvelles de sa tante. « Justement, j'y disais, monsieur devait avoir crainte que mademoiselle ne vienne plus, parce que ce n'est pas une heure pour venir, c'est bientôt le matin. Mais elle devait être dans des endroits qu'elle s'amusait bien, car elle ne m'a pas seulement dit qu'elle était contrariée d'avoir fait attendre monsieur. Elle m'a répondu d'un air de se fiche du monde. Mieux vaut tard que jamais. » Et Françoise ajouta ces mots qui me percèrent le cœur. « En parlant comme ça, elle s'est vendue. Elle aurait peut-être bien voulu se cacher, mais... » Je n'avais pas de quoi être bien étonnée. Je viens de dire que Françoise rendait rarement compte, dans les commissions qu'on lui donnait, sinon de ce qu'elle avait dit et sur quoi elle s'étendait volontiers, du moins de la réponse attendue. Mais, si par exception elle nous répétait les paroles que nos amis avaient dites, si courtes qu'elles fussent, elle s'arrangerait généralement, au besoin grâce à l'expression, au ton dont elle assurait qu'elles avaient été accompagnées, à leur donner quelque chose de blessant. À la rigueur, elle acceptait d'avoir subi d'un fournisseur chez qui nous l'avions envoyé une avanie, d'ailleurs probablement imaginaire, pourvu que, s'adressant à elle qui nous représentait, qui avait parlé en notre nom, cette avanie nous atteignit par ricochet. Il n'eût resté qu'à lui répondre qu'elle avait mal compris, qu'elle était atteinte de délire de persécution et que tous les commerçants n'étaient pas ligués contre elle. D'ailleurs, leurs sentiments m'importaient peu. Il n'en était pas de même de ceux d'Albertine, et en me redisant ces mots ironiques, « Mieux vaut tard que jamais !» Françoise m'évoqua aussitôt les amis dans la société desquels Albertine avait fini sa soirée, s'y plaisant donc plus que dans la mienne. « Elle est comique, elle a un petit chapeau plat avec ses gros yeux, ça lui donne un drôle d'air, surtout avec son manteau, qu'elle aurait bien fait d'envoyer chez l'estopeuse, car il est tout mangé. Elle m'amuse !» ajouta, comme se moquant d'Albertine, Françoise, qui partageait rarement mes impressions, mais éprouvait le besoin de faire connaître les siennes. Je ne voulais même pas avoir l'air de comprendre que ce rire signifiait le dédain de la moquerie. Mais, pour rendre coup pour coup, je répondis à Françoise, bien que je ne connusse pas le petit chapeau dont elle parlait. « Ce que vous appelez petit chapeau plat est quelque chose de simplement ravissant. » « C'est-à-dire que c'est trois fois rien !» dit Françoise, en exprimant franchement cette fois son véritable mépris. Alors, d'un ton doux et ralenti pour que ma réponse mensongère eût l'air d'être l'expression non de ma colère, mais de la vérité, en ne perdant pas de temps cependant, pour ne pas faire attendre Albertine, j'adressai à Françoise ces paroles cruelles. « Vous êtes excellente !» lui dis-je mielleusement. « Vous êtes gentille, vous avez mille qualités, mais vous en êtes au même point que le jour où vous êtes arrivée à Paris, aussi bien pour vous connaître en choses de toilette que pour bien prononcer les mots et ne pas faire de cuir. » Et ce reproche était particulièrement stupide, car ces mots français que nous sommes si fiers de prononcer exactement ne sont eux-mêmes que des cuirs faits par des bouches gauloises qui prononçaient de travers le latin ou le saxon, notre langue n'étant que la prononciation défectueuse de quelques autres. Le génie linguistique à l'état vivant, l'avenir et le passé du français, voilà ce qui eût dû m'intéresser dans les fautes de Françoise. L'estopeuse pour la stoppeuse n'était-il pas aussi curieux que ces animaux survivants des époques lointaines, comme la baleine ou la girafe, et qui nous montrent les états que la vie animale a traversés? Et, ajoutai-je, du moment que depuis tant d'années vous n'avez pas su apprendre, vous n'apprendrez jamais. Vous pouvez vous en consoler. Cela ne vous empêche pas d'être une très brave personne, de faire à merveille le bœuf à la gelée et encore mille autres choses. Le chapeau que vous croyez simple est copié sur un chapeau de la princesse de Guermantes qui a coûté 500 francs. Du reste, je compte en offrir prochainement un encore plus beau à mademoiselle Albertine. Je savais que ce qui pouvait le plus ennuyer Françoise, c'est que je dépensasse de l'argent pour des gens qu'elle n'aimait pas. Elle me répondit par quelques mots que rendit peu intelligible un brusque essoufflement. Quand j'appris plus tard qu'elle avait une maladie de cœur, quel remords j'eus de ne m'être jamais refusé le plaisir féroce et stérile de riposter ainsi à ses paroles. Françoise détestait du reste Albertine, parce que, pauvre, Albertine ne pouvait accroître ce que Françoise considérait comme mes supériorités. Elle souriait avec bienveillance chaque fois que j'étais invitée par Madame de Villeparisis. En revanche, elle était indignée qu'Albertine ne pratiquât pas la réciprocité. J'en étais arrivée à être obligée d'inventer de prétendus cadeaux faits par celle-ci, et à l'existence desquels Françoise n'ajouta jamais l'ombre de foi. Ce manque de réciprocité la choquait, surtout en matière alimentaire. Qu'Albertine acceptât des dîners de maman, si nous n'étions pas invités chez Madame Bontemps, laquelle pourtant n'était pas à Paris la moitié du temps, son mari acceptant des postes, comme autrefois quand il avait assez du ministère. Cela lui paraissait, de la part de mon amie, une indélicatesse qu'elle flétrissait indirectement en récitant ce dicton courant à Combray. « Mangeons mon pain, je le veux bien. Mangeons le tien, je n'ai plus faim. » Je fis semblant d'être contraint d'écrire. « À qui écriviez-vous ? » me dit Albertine en entrant. « À une jolie amie à moi, à Gilbert Swann. Vous ne la connaissez pas ?
Non.
Je renonçais à poser à Albertine des questions sur sa soirée. Je sentais que je lui ferais des reproches et que nous n'aurions plus le temps, vu l'heure qu'il était, de nous réconcilier suffisamment pour passer aux baisers et aux caresses. Aussi, ce fut par eux que je voulais, dès la première minute, commencer. D'ailleurs, si j'étais un peu calmé, je ne me sentais pas heureux. La perte de toute boussole, de toute direction, qui caractérise l'attente, persiste encore après l'arrivée de l'être attendu. Et, substitué en nous au calme à la faveur duquel nous nous peignons sa venue comme un tel plaisir, nous empêche d'en goûter aucun. Albertine était là, mes nerfs démontés, continuant leur agitation, l'attendaient encore. « Je veux prendre un bon baiser, Albertine. »«
Tant que vous voudrez, »
me dit-elle avec toute sa bonté. Je ne l'avais jamais vue aussi jolie.
« Encore un ?»«
Mais vous savez que ça me fait un grand, grand plaisir. »
« Et à moi, encore mille fois plus !»
me répondit-elle. « Oh, le joli portefeuille que vous avez là !»«
Prenez-le, je vous le donne en souvenir. »«
Vous êtes trop gentil !» On serait à jamais guéri du romanesque si l'on voulait, pour penser à celle qu'on aime, tâcher d'être celui qu'on sera quand on ne l'aimera plus. Le portefeuille, la bille d'agate de Gilberte, tout cela n'avait reçu jadis son importance que d'un état purement inférieur, puisque maintenant c'était pour moi un portefeuille, une bille quelconque. Je demandai à Albertine si elle voulait boire.
« Il me semble que je vois là des oranges et de l'eau, » me dit-elle. « Ce sera parfait. »
Je pus goûter ainsi, avec ses baisers, cette fraîcheur qui me paraissait supérieure à eux chez la princesse de Guermantes. Et l'orange, pressée dans l'eau, semblait me livrer, au fur et à mesure que je buvais, la vie secrète de son mûrissement, son action heureuse contre certains états de ce corps humain qui appartient à un règne si différent, son impuissance à le faire vivre, mais en revanche, les jeux d'arrosage par où elle pouvait lui être favorable, sans mystère dévoilé par le fruit à ma sensation, nullement à mon intelligence. Albertine partie, je me rappelais que j'avais promis à Swann d'écrire à Gilberte, et je trouvais plus gentil de le faire tout de suite. Ce fut sans émotion, et comme mettant la dernière ligne à un ennuyeux devoir de classe, que je traçai sur l'enveloppe le nom de Gilbert Swann, dont je couvrais jadis mes cahiers pour me donner l'illusion de correspondre avec elle. C'est que, si autrefois ce nom-là, c'était moi qui l'écrivais, maintenant la tâche en avait été dévolue par l'habitude à l'un de ses nombreux secrétaires qu'elle s'adjoint. Celui-là pouvait écrire le nom de Gilberte avec d'autant plus de calme que, placé récemment chez moi par l'habitude, récemment entré à mon service, il n'avait pas connu Gilberte et savait seulement, sans mettre aucune réalité sous ses mots, parce qu'il m'avait entendu parler d'elle, que c'était une jeune fille de laquelle j'avais été amoureux. Je ne pouvais l'accuser de sécheresse. L'être que j'étais maintenant vis-à-vis d'elle était le témoin le mieux choisi pour comprendre ce qu'elle-même avait été. Le portefeuille, la bille d'agate, étaient simplement redevenus pour moi, à l'égard d'Albertine, ce qu'ils avaient été pour Gilberte, ce qu'ils eussent été pour tout être qui n'eût pas fait jouer sur eux le reflet d'une flamme intérieure. Mais maintenant, un nouveau trouble était en moi, qui altérait à son tour la puissance véritable des choses et des mots. Et comme Albertine me disait, pour me remercier encore, « J'aime tant les turquoises !» Je lui répondis, « Ne laissez pas mourir celle-là » leur confiant ainsi, comme à des pierres, l'avenir de notre amitié, qui pourtant n'était pas plus capable d'inspirer un sentiment à Albertine qu'il ne l'avait été de conserver celui qui m'unissait autrefois à Gilberte. Il se produisit à cette époque
un phénomène qui ne mérite d'être mentionné que parce qu'il se retrouve à toutes les périodes importantes de l'histoire. Au moment même où j'écrivais à Gilberte, M. de Guermantes, à peine rentré de la redoute, encore coiffé de son casque, songeait que le lendemain il serait bien forcé d'être officiellement en deuil, et décida d'avancer de 8 jours la cure d'eau qu'il devait faire. Quand il en revint, 3 semaines après, et pour anticiper, puisque je viens seulement de finir ma lettre à Gilberte, les amis du duc qu'il avait vu, si indifférents au début, devenir un anti-Dreyfusard forcené, restèrent muets de surprise en l'entendant, comme si la cure n'avait pas agi seulement sur la vessie. Leur répondre « Eh bien, le procès sera révisé et il sera acquitté. On ne peut pas condamner un homme contre lequel il n'y a rien. Avez-vous jamais vu un gaga comme Frobertville, un officier préparant les Français à la boucherie pour dire la guerre? Étrange époque !» Or, dans l'intervalle, le duc de Guermantes avait connu aux eaux 3 charmantes dames, une princesse italienne et ses 2 belles-sœurs. En les entendant dire quelques mots sur les livres qu'elles lisaient, sur une pièce qu'on jouait au casino, le duc avait tout de suite compris qu'il avait affaire à des femmes d'une intellectualité supérieure et avec lesquelles, comme il le disait, il n'était pas de force. Il n'en avait été que plus heureux d'être invité à jouer au bridge par la princesse. Mais à peine arrivé chez elle, comme il lui disait, dans la ferveur de son anti-dreyfusisme sans nuance, « Eh bien, on ne nous parle plus de la révision du fameux Dreyfus !» Sa stupéfaction avait été grande d'entendre la princesse et ses belles-sœurs dire « On n'en a jamais été si près. On ne peut pas retenir au bagne quelqu'un qui n'a rien fait. « Ah ! Ah !» avait d'abord balbutié le duc, comme à la découverte d'un sobriquet bizarre qui eût été en usage dans cette maison pour tourner en ridicule quelqu'un qu'il avait cru jusque-là intelligent. Mais au bout de quelques jours, comme par lâcheté et esprit d'imitation, on crie « Hé là, Jojotte !» sans savoir pourquoi, à un grand artiste qu'on entend appeler ainsi dans cette maison, le duc, encore tout gêné par la coutume nouvelle, disait cependant « En effet, s'il n'y a rien contre lui !» Les 3 charmantes dames trouvaient qu'il n'allait pas assez vite et le rudoyaient un peu. Mais, au fond, personne d'intelligent n'a pu croire qu'il y eût rien. Chaque fois qu'un fait écrasant contre Dreyfus se produisait et que le duc, croyant que cela allait convertir les 3 dames charmantes, venait le leur annoncer, elles riaient beaucoup et n'avaient pas de peine, avec une grande finesse de dialectique, à lui montrer que l'argument était sans valeur et tout à fait ridicule. Le duc était rentré à Paris, Dreyfusard enragé. Et certes, nous ne prétendons pas que les 3 dames charmantes ne fussent pas, dans ce cas-là, messagères de vérité. Mais il est à remarquer que tous les 10 ans, quand on a laissé un homme rempli d'une conviction véritable, il arrive qu'un couple intelligent ou une seule dame charmante entre dans sa société et qu'au bout de quelques mois, on l'amène à des opinions contraires. Et sur ce point, il y a beaucoup de pays qui se comportent comme l'homme sincère. Beaucoup de pays qu'on a laissés remplis de haine pour un peuple et qui, 6 mois après, ont changé de sentiment et renversé leurs alliances. Je ne vis plus de quelque temps Albertine, mais continuai, à défaut de Madame de Guermantes qui ne parlait plus à mon imagination, à voir d'autres fées et leurs demeures, aussi inséparables d'elles que du mollusque qui la fabriqua et s'en abrite la valve de nacre ou d'émail, ou la tourelle à créneau de son coquillage. Je n'aurais pas su classer ces dames, la difficulté du problème étant aussi insignifiante et impossible, non seulement à résoudre, mais à poser. Avant la dame, il fallait aborder le féerique hôtel. Or, l'une recevait toujours après déjeuner les mois d'été. Même avant d'arriver chez elle, il avait fallu faire baisser la capote du fiacre, tant tapait dur le soleil, dont le souvenir, sans que je m'en rendisse compte, allait entrer dans l'impression totale. Je croyais seulement aller au cours la reine. En réalité, avant d'être arrivé dans la réunion dont un homme pratique se fût peut-être moqué, j'avais, comme dans un voyage à travers l'Italie, un éblouissement, des délices, dont l'hôtel ne serait plus séparé dans ma mémoire. De plus, à cause de la chaleur de la maison et de l'heure, la dame avait clos hermétiquement les volets dans les vastes salons rectangulaires du rez-de-chaussée où elle recevait. Je reconnaissais mal d'abord la maîtresse de maison et ses visiteurs, même la duchesse de Guermantes, qui, de sa voix rauque, me demandait de venir m'asseoir auprès d'elle, dans un fauteuil de Beauvais représentant l'enlèvement d'Europe. Puis je distinguais sur les murs les vastes tapisseries du XVIIIe siècle, représentant des vaisseaux aux mâts fleuris de roses trémières, au-dessous desquels je me trouvais comme dans le palais, non de la Seine, mais de Neptune, au bord du fleuve Océan, où la duchesse de Guermantes devenait comme une divinité des eaux. Je n'en finirais pas si j'énumérais tous les salons différents de celui-là. Cet exemple suffit à montrer que je faisais entrer, dans mes jugements mondains, des impressions poétiques que je ne faisais jamais entrer en ligne de compte au moment de faire le total. Si bien que, quand je calculais les mérites d'un salon, mon addition n'était jamais juste. Certes, ces causes d'erreur étaient loin d'être les seules, mais je n'ai plus le temps, avant mon départ pour Balbec, où, pour mon malheur, je vais faire un second séjour qui sera aussi le dernier, de commencer des peintures du monde qui trouveront leur place bien plus tard. Disons seulement qu'à cette première fausse raison, ma vie relativement frivole et qui faisait supposer l'amour du monde, de ma lettre à Gilberte et du retour aux Swann qu'elle semblait indiquer, Odette aurait pu en ajouter tout aussi inexactement une seconde. Je n'ai imaginé jusqu'ici les aspects différents que le monde prend pour une même personne qu'en supposant que la même dame qui ne connaissait personne va chez tout le monde, et que telle autre, qui avait une position dominante, est délaissée. On est tenté d'y voir uniquement de ces hauts et bas, purement personnels, qui, de temps à autre, amènent dans une même société, à la suite de spéculations de bourse, une ruine retentissante ou un enrichissement inespéré. Or, ce n'est pas seulement cela. Dans une certaine mesure, les manifestations mondaines, fort inférieures aux mouvements artistiques, aux crises politiques, à l'évolution qui porte le goût public vers le théâtre, puis vers la peinture impressionniste, puis vers la musique allemande et complexe, puis vers la musique russe et simple, ou vers les idées sociales, les idées de justice, la réaction religieuse, le sursaut patriotique, en sont cependant le reflet lointain, brisé, incertain, trouble, changeant. De sorte que même les salons ne peuvent être dépeints dans une immobilité statique qui a pu convenir jusqu'ici à l'étude des caractères, lesquels devront, eux aussi, être comme entraînés dans un mouvement quasi historique. Le goût de nouveauté qui porte les hommes du monde plus ou moins sincèrement avides de se renseigner sur l'évolution intellectuelle, à fréquenter les milieux où ils peuvent suivre celle-ci, leur fait préférer d'habitude quelques maîtresses de maison jusque-là inédites, qui représentent encore, toutes fraîches, les espérances de mentalité supérieure, si fanées et défraîchies chez les femmes qui ont exercé depuis longtemps le pouvoir mondain, et lesquelles, comme ils en connaissent le fort et le faible, ne parlent plus à leur imagination. Et chaque époque se trouve ainsi personnifiée dans des femmes nouvelles, dans un nouveau groupe de femmes qui, rattachées étroitement à ce qui pique à ce moment-là les curiosités les plus neuves, semblent, dans leur toilette, apparaître seulement, à ce moment-là, comme une espèce inconnue née du dernier déluge. Beautés irrésistibles de chaque nouveau consulat, de chaque nouveau directoire. Mais très souvent, la maîtresse de maison nouvelle est tout simplement comme certains hommes d'État, dont c'est le premier ministère, mais qui, depuis 40 ans, frappait à toutes les portes sans se les voir ouvrir. Des femmes qui n'étaient pas connues de la société, mais n'en recevaient pas moins depuis fort longtemps, et, faute de mieux, quelques rares intimes. Certes, ce n'est pas toujours le cas. Et quand, avec l'efflorescence prodigieuse des ballets russes, révélatrice coup sur coup de Basques, de Nijinsky, de Benoist, du génie de Stravinsky, la princesse Surbeletiev, jeune marraine de tous ces grands hommes nouveaux, apparut portant sur la tête une immense aigrette tremblante, inconnue des Parisiennes, et qu'elles cherchèrent toutes à imiter. On put croire que cette merveilleuse créature avait été apportée dans leurs innombrables bagages, et comme leur plus précieux trésor par les danseurs russes. Mais quand, à côté d'elle, dans son avant-scène, nous verrons, à toutes les représentations des Russes, siégée comme une véritable fée, ignorée jusqu'à ce jour de l'aristocratie, Madame Verdurin, nous pourrons répondre aux gens du monde qui crurent aisément Madame Verdurin fraîchement débarquée avec la troupe de Diaghilo, que cette dame avait déjà existé dans des temps différents et passé par divers avatars dont celui-là ne différait qu'en ce qu'il était le premier qui amenait enfin, désormais assuré, et en marche d'un pays de plus en plus rapide, le succès, si longtemps et si vainement attendu par la patronne. Pour Madame Swann, il est vrai, la nouveauté qu'elle représentait n'avait pas le même caractère collectif. Son salon s'était cristallisé autour d'un homme, d'un mourant, qui avait presque tout d'un coup passé, au moment où son talent s'épuisait, de l'obscurité à la grande gloire. L'engouement pour les œuvres de Bergotte était immense. Il passait toute la journée exhibé chez Madame Swann, qui chuchotait à un homme influent « Je lui parlerai, il vous fera un article. » Il était, du reste, en état de le faire, et même un petit acte pour Madame Swann. Plus près de la mort, il allait un peu moins mal qu'au temps où il venait prendre des nouvelles de ma grand-mère. C'est que de grandes douleurs physiques lui avaient imposé un régime. La maladie est le plus écoutée des médecins. À la bonté, au savoir, on ne fait que promettre. On obéit à la souffrance. Certes, le petit clan des Verdurin avait actuellement un intérêt autrement vivant que le salon légèrement nationaliste, plus encore littéraire, et avant tout bergotique de Madame Swann. Le petit clan était en effet le centre actif d'une longue crise politique arrivée à son maximum d'intensité, le dreyfusisme. Mais les gens du monde étaient pour la plupart tellement anti-révisionnistes qu'un salon dreyfusien semblait quelque chose d'aussi impossible qu'à une autre époque un salon communard. La princesse de Caprarola, qui avait fait la connaissance de Madame Verdurin, à propos d'une grande exposition qu'elle avait organisée, avait bien été rendre à celle-ci une longue visite, dans l'espoir de débaucher quelques éléments intéressants du petit clan et de les agréger à son propre salon. Visite au cours de laquelle la princesse, jouant au petit pied la duchesse de Guermantes, avait pris la contrepartie des opinions reçues, déclaré les gens de son monde idiots, ce que Madame Verdurin avait trouvé d'un grand courage. Mais ce courage ne devait pas aller plus tard jusqu'à oser, sous le feu des regards de dames nationalistes, saluer Madame Verdurin aux courses de Balbec. Pour Madame Swann, les anti-dreyfusards lui savaient, au contraire, gré d'être bien pensante. Ce à quoi, mariée à un juif, elle avait un mérite double. Néanmoins, les personnes qui n'étaient jamais allées chez elle, s'imaginer qu'elle recevait seulement quelques Israélites obscurs et des élèves de Bergotte. On classe ainsi des femmes, autrement qualifiées que Madame Swann, au dernier rang de l'échelle sociale, soit à cause de leurs origines, soit parce qu'elles n'aiment pas les dîners en ville et les soirées où on ne les voit jamais, ce qu'on suppose faussement dû à ce qu'elles n'auraient pas été invitées, soit parce qu'elles ne parlent jamais de leurs amitiés mondaines, mais seulement de littérature et d'art, soit parce que les gens se cachent d'aller chez elles, ou que, pour ne pas faire d'impolitesse aux autres, elles se cachent de les recevoir. Enfin, pour mille raisons, qui achèvent de faire de telle ou telle d'entre elles, aux yeux de certains, la femme qu'on ne reçoit pas. Il en était ainsi pour Odette. Madame d'Épinoy, à l'occasion d'un versement qu'elle désirait pour la patrie française, ayant eu à aller la voir, comme elle serait entrée chez sa mercière, convaincue d'ailleurs qu'elle ne trouverait que des visages, non pas même méprisés, mais inconnus, resta clouée sur la place quand la porte s'ouvrit, non sur le salon qu'elle supposait, mais sur une salle magique où, comme grâce à un changement à vue dans une féerie, elle reconnut, dans des figurantes éblouissantes, à demi étendues sur des divans, assises sur des fauteuils, appelant la maîtresse de maison par son petit nom, les altesses, les duchesses qu'elle-même, la princesse d'Épinoy, avait grand-peine à attirer chez elle, et auxquelles, en ce moment, sous les yeux bienveillants d'Odette, le marquis du Lot, le comte Louis de Turenne, le prince Borghèse, le duc d'Estrée, portant l'orangeade et les petits fours, servaient de panetiers et des chansons. La princesse d'Épinoy, comme elle mettait sans s'en rendre compte la qualité mondaine à l'intérieur des êtres, fut obligée de désincarner Madame Swann et de la réincarner en une femme élégante. L'ignorance de la vie réelle que mènent les femmes qui ne l'exposent pas dans les journaux tend ainsi sur certaines situations et contribue par là à diversifier les salons. Un voile de mystère. Pour Odette, au commencement, quelques hommes de la plus haute société, curieux de connaître Bergotte, avaient été dîner chez elle dans l'intimité. Elle avait eu le tact, récemment acquis, de n'en pas faire étalage. Il trouvait là, souvenir peut-être du petit noyau dont Odette avait gardé, depuis le schisme, les traditions, le couvermis, etc. Odette les emmenait avec Bergotte, que cela achevait d'ailleurs de tuer, aux premières intéressantes. Ils parlèrent d'elle à quelques femmes de leur monde capables de s'intéresser à tant de nouveautés. Elles étaient persuadées qu'Odette, intime de Bergotte, avait plus ou moins collaboré à ses œuvres et la croyait mille fois plus intelligente que les femmes les plus remarquables du faubourg, pour la même raison qu'elles mettaient tout leur espoir politique en certains républicains bon teint, comme M. Doumer et M. Deschanel, tandis qu'elle voyait la France aux abîmes si elle était confiée au personnel monarchiste qu'elle recevait à dîner, aux Charettes, aux Doudeauville, etc. Ce changement de la situation d'Odette s'accomplissait de sa part avec une discrétion qui la rendait plus sûre et plus rapide, mais ne la laissait nullement soupçonner du public, enclin à s'en remettre aux chroniques du Gaulois, des progrès ou de la décadence d'un salon, de sorte qu'un jour, à une répétition générale d'une pièce de Bergotte, donnée dans une salle des plus élégantes au bénéfice d'une œuvre de charité, ce fut un vrai coup de théâtre quand on vit, dans la loge de face, qui était celle de l'auteur, venir s'asseoir à côté de Madame Swann, Madame de Marsante, et celle qui, par l'effacement progressif de la duchesse de Guermantes, rassasiée d'honneur et s'annihilant par moindre effort, était en train de devenir la lionne, la reine du temps, la comtesse Molé. Quand nous ne nous doutions pas même qu'elle avait commencé à monter, se dit-on d'Odette, au moment où on vit entrer la comtesse Molé dans la loge. Elle a franchi le dernier échelon. de sorte que Madame Swann pouvait croire que c'était par snobisme que je me rapprochais de sa fille. Odette, malgré ses brillantes amies, n'écouta pas moins la pièce avec une extrême attention, comme si elle eût été là seulement pour l'entendre. De même que jadis, elle traversait le bois par hygiène et pour faire de l'exercice. Des hommes, qui étaient jadis moins empressés autour d'elle, vinrent au balcon, dérangeant tout le monde, se suspendre à sa main pour approcher le cercle imposant dont elle était environnée. Elle, avec un sourire plutôt encore d'amabilité que d'ironie, répondait patiemment à leurs questions, affectant plus de calme qu'on aurait cru, et qui était peut-être sincère. Cette exhibition n'étant que l'exhibition tardive d'une intimité habituelle et discrètement cachée. Derrière ces trois dames, attirant tous les yeux, était Bergotte, entourée par le prince d'Agrigente, le comte Louis Turenne et le marquis de Bréauté. Et il était aisé de comprendre que, pour des hommes qui étaient reçus partout et qui ne pouvaient plus attendre une surélévation que de recherche d'originalité, cette démonstration de leur valeur, qu'ils croyaient faire en se laissant attirer par une maîtresse de maison réputée de haute intellectualité, et auprès de qui ils s'attendaient à rencontrer tous les auteurs dramatiques et tous les romanciers en vogue, était plus excitante et vivante que ces soirées chez la princesse de Guermantes, lesquelles, sans aucun programme et attrait nouveau, se succédaient depuis tant d'années, plus ou moins pareilles à celles que nous avons si longuement décrites. Dans ce grand salon-là, celui des Guermantes, d'où la curiosité se détournait un peu, les modes intellectuelles nouvelles ne s'incarnaient pas en divertissement à leur image, comme en ces bluettes de Bergotte écrites pour Madame Swann, comme en ces véritables séances de salut public, si le monde avait pu s'intéresser à l'affaire Dreyfus, où chez Madame Verdurin se réunissaient Picard, Clémenceau, Zola, Rénac et Laborie. Gilberte servait aussi à la situation de sa mère, car un oncle de Swann venait de laisser près de 80 millions à la jeune fille, ce qui faisait que le faubourg Saint-Germain commençait à penser à elle. Le revers de la médaille était que Swann, d'ailleurs mourant, avait des opinions dreyfusistes. Mais cela même ne nuisait pas à sa femme, et même lui rendait service. Cela ne lui nuisait pas parce qu'on disait « Il est gâteux, idiot, on ne s'occupe pas de lui, il n'y a que sa femme qui compte, et elle est charmante. » Mais même le dreyfusisme de Swann était utile à Odette. Livrée à elle-même, elle se fut peut-être laissée aller à faire aux femmes chiques des avances qu'il eût perdues. Tandis que les soirs où elle traînait son mari dîner dans le faubourg Saint-Germain, Swann, restant farouchement dans son coin, ne se gênait pas s'il voyait Odette se faire présenter à quelques dames nationalistes de dire à haute voix « Mais voyons, Odette, vous êtes folle, je vous prie de rester tranquille. Ce serait une platitude de votre part de vous faire présenter à des antisémites. Je vous le défends. » Les gens du monde, après qui chacun court, ne sont habitués ni à tant de fierté, ni à tant de mauvaise éducation. Pour la première fois, ils voyaient quelqu'un qui se croyait plus qu'eux. On se racontait ces grognements de Swann, et les cartes cornées pleuvaient chez Odette. Quand celle-ci était en visite chez Madame d'Arpajon, c'était un vif et sympathique mouvement de curiosité. « Ça ne vous a pas ennuyé que je vous l'ai présenté ?» disait Madame d'Arpajon. « Elle est très gentille, c'est Marie de Marsante qui me l'a fait connaître. »« Mais non, au contraire, il paraît qu'elle est tout ce qu'il y a de plus intelligente. Elle est charmante, je désirais au contraire la rencontrer. » « Dites-moi donc où elle demeure. » Madame d'Arpajon disait à Madame Swann qu'elle s'était beaucoup amusée chez elle l'avant-veille et avait lâché avec joie pour elle Madame de Sainte-Verte. Et c'était vrai, car préférer Madame Swann, c'était montrer qu'on était intelligent. comme d'aller au concert au lieu d'aller à un thé. Mais quand Madame de Sainte-Verte venait chez Madame d'Arpajon en même temps qu'Odette, comme Madame de Sainte-Verte était très snob et que Madame d'Arpajon, tout en la traitant d'assez haut, tenait à ses réceptions, Madame d'Arpajon ne présentait pas Odette, pour que Madame de Sainte-Verte ne sût pas qui c'était. La marquise s'imaginait que ce devait être quelque princesse qui sortait très peu, pour qu'elle ne l'eût jamais vue. Prolongeait sa visite, répondait indirectement à ce que disait Odette. Mais Madame d'Arpajon restait de fer. Et quand Madame de Sainte-Verte, vaincue, s'en allait, « Je ne vous ai pas présenté, » disait la maîtresse de maison à Odette, « parce qu'on n'aime pas beaucoup aller chez elle, et elle invite énormément. Vous n'auriez pas pu vous en dépêtrer. »« Oh, cela ne fait rien, » disait Odette, avec un regret. Mais elle gardait l'idée qu'on n'aimait pas aller chez Madame de Sainte-Verte, ce qui, dans une certaine mesure, était vrai. Elle en concluait qu'elle avait une situation très supérieure à Madame de Sainte-Verte, bien que celle-ci en eût une très grande. Et Odette, encore aucune. Elle ne s'en rendait pas compte. Et bien que toutes les amies de Madame de Guermantes fussent liées avec Madame d'Arpajon, quand celle-ci invitait Madame Swann, Odette disait d'un air scrupuleux « Je vais chez Madame d'Arpajon, mais vous allez me trouver bien vieux jeu. Cela me choque, à cause de Madame de Guermantes. » Qu'elle ne connaissait pas, du reste. Les hommes distingués pensaient que le fait que Madame Swann connût peu de gens du grand monde tenait à ce qu'elle devait être une femme supérieure, probablement une grande musicienne, et que ce serait une espèce de titre extramondain, comme pour un duc d'être doctoresse science, que d'aller chez elle. Les femmes complètement nulles étaient attirées vers Odette par une raison contraire. Apprenant qu'elle allait au concert Colonne et se déclarait wagnérienne, elles en concluaient que ce devait être une farceuse, et elles étaient fort allumées par l'idée de la connaître. Mais, peu assurées dans leur propre situation, elles craignaient de se compromettre en public, en ayant l'air liées avec Odette. Et, si dans un concert de charité elles apercevaient Madame Swann, elles détournaient la tête, jugeant impossible de saluer, sous les yeux de Madame de Rochechouart, une femme qui était bien capable d'être allée à Bayreuth, ce qui voulait dire faire les 119 coups. Chaque personne en visite chez une autre devenait différente, sans parler des métamorphoses merveilleuses qui s'accomplissaient ainsi chez les fées, dans le salon de Madame Swann. Monsieur de Bréauté, soudain mis en valeur par l'absence des gens qui l'entouraient d'habitude, par l'air de satisfaction qu'il avait de se trouver là, aussi bien que si, au lieu d'aller à une fête, il avait chaussé des besicles pour s'enfermer à lire la revue des deux mondes, par le rite mystérieux qu'il avait l'air d'accomplir en venant voir Odette, monsieur de Bréauté lui-même semblait un homme nouveau. J'aurais beaucoup donné pour voir quelles altérations la duchesse de Montmorency-Luxembourg aurait subi dans ce milieu nouveau. Mais elle était une des personnes à qui jamais on ne pourrait présenter Odette. Madame de Montmorency, beaucoup plus bienveillante pour Oriane que celle-ci n'était pour elle, m'étonnait beaucoup en me disant à propos de Madame de Guermantes « Elle connaît des gens d'esprit, tout le monde l'aime. Je crois que si elle avait eu un peu plus d'esprit de suite, elle serait arrivée à se faire un salon. La vérité est qu'elle n'y tenait pas, elle a bien raison. Elle est heureuse comme cela, recherchée de tous. » Si Madame de Guermantes n'avait pas un salon, alors qu'est-ce que c'était qu'un salon ? La stupéfaction où me jetèrent ces paroles n'était pas plus grande que celle que je causais à Madame de Guermantes en lui disant que j'aimais bien aller chez Madame de Montmorency. Oriane la trouvait une vieille crétine. « Encore moi, disait-elle, j'y suis forcée, c'est ma tante. Mais vous, elle ne sait même pas attirer les gens agréables. » Madame de Guermantes ne se rendait pas compte que les gens agréables me laissaient froid, que quand elle me disait « salon arpajon », je voyais un papillon jaune. Et « salon Swann », Madame Swann était chez elle l'hiver de 6 à 7, un papillon noir aux ailes feutrées de neige. Encore ce dernier salon, qui n'en était pas un, elle le jugeait, bien qu'inaccessible pour elle, excusable pour moi, à cause des gens d'esprit. Mais Madame de Luxembourg, si j'eusse déjà produit quelque chose qui eût été remarqué, elle eût conclu qu'une part de snobisme peut s'allier au talent. Et je mis le comble à sa déception. Je lui avouai que je n'allais pas chez Madame de Montmorency, comme elle croyait, pour prendre des notes et faire une étude. Madame de Guermantes ne se trompait du reste, pas plus que les romanciers mondains, qui analysent cruellement du dehors les actes d'un snob ou prétendu tel, mais ne se placent jamais à l'intérieur de celui-ci, à l'époque où fleurit dans l'imagination tout un printemps social. Moi-même, quand je voulus savoir quel si grand plaisir j'éprouvais à aller chez Madame de Montmorency, je fus un peu désappointée. Elle habitait dans le faubourg Saint-Germain une vieille demeure remplie de pavillons que séparaient de petits jardins. Sous la voûte, une statuette, qu'on disait de Falconet, représentait une source d'où, du reste, une humidité perpétuelle suintait. Un peu plus loin, la concierge, toujours les yeux rouges, soit chagrin, soit neurasthénie, soit migraine, soit rhume, ne vous répondait jamais. Vous faisiez un geste vague, indiquant que la duchesse était là, et laissait tomber de ses paupières quelques gouttes au-dessus d'un bol rempli de « ne m'oubliez pas ». Le plaisir que j'avais à voir la statuette, parce qu'elle me faisait penser à un petit jardinier en plâtre qu'il y avait dans un jardin de Combray, n'était rien auprès de celui que me causait le grand escalier humide et sonore, plein d'échos, comme celui de certains établissements de bains d'autrefois, aux vases remplis de cinéraires, bleu sur bleu, dans l'antichambre, et surtout le tintement de la sonnette, qui était exactement celui de la chambre de Lali. Ce tintement mettait le comble à mon enthousiasme, mais me semblait trop humble pour que je le pusse expliquer à Madame de Montmorency. De sorte que cette dame me voyait toujours dans un ravissement dont elle ne devina jamais la cause. Les intermittences du cœur. Ma seconde arrivée à Balbec fut bien différente de la première. Le directeur était venu en personne m'attendre à Pont-à-Couleuvre, répétant combien il tenait à sa clientèle titrée, ce qui me fit craindre qu'il m'anoblît jusqu'à ce que j'eusse compris que, dans l'obscurité de sa mémoire grammaticale, « titré » signifiait simplement « attitré ». Du reste, au fur et à mesure qu'il apprenait de nouvelles langues, il parlait plus mal les anciennes. Il m'annonça qu'il m'avait logé tout en haut de l'hôtel. « J'espère, dit-il, que vous ne verrez pas là un manque d'impolitesse. J'étais ennuyé de vous donner une chambre dont vous êtes indigne, mais je l'ai fait rapport au bruit, parce que comme cela vous n'aurez personne au-dessus de vous pour vous fatiguer le trépan. Pour tympan. Soyez tranquille, je ferai fermer les fenêtres pour qu'elles ne battent pas. Là-dessus, je suis intolérable. » Ces mots n'exprimant pas sa pensée, laquelle était qu'on le trouverait toujours inexorable à ce sujet, mais peut-être bien celle de ses valets d'étage. Les chambres étaient d'ailleurs celles du premier séjour. Elles n'étaient pas plus bas, mais j'avais monté dans l'estime du directeur. Je pourrais faire du feu si cela me plaisait, car sur l'ordre des médecins, j'étais parti des Pâques. Mais il craignait qu'il n'y ait eu des fixures dans le plafond. Surtout, attendez toujours pour allumer une flambée que la précédente soit consommée. Pour consommer. Car l'important, c'est d'éviter de ne pas mettre le feu à la cheminée. D'autant plus que, pour égayer un peu, j'ai fait placer dessus une grande postiche en vieux chine que cela pourrait abîmer. Il m'apprit avec beaucoup de tristesse la mort du bâtonnier de Cherbourg.
« C'était un vieux routinier, dit-il,
probablement pour Roublard, et me laissa entendre que sa fin avait été avancée par une vie de déboire, ce qui signifiait de débauche.
Déjà, depuis quelque temps, je remarquais qu'après le dîner, il s'accroupissait dans le salon,
sans doute pour s'assoupisser.
Les derniers temps, il était tellement changé que, si l'on n'avait pas su que c'était lui, à le voir, il était à peine reconnaissant.
Pour reconnaissable, sans doute.
Compensation heureuse. Le premier président de Caen venait de recevoir la cravache de commandeur de la Légion d'honneur.
Sûr et certain qu'il a des capacités, mais paraît qu'on la lui a donnée surtout à cause de sa grande impuissance.
On revenait du reste sur cette décoration dans l'Écho de Paris de la veille, dont le directeur n'avait encore lu que le premier paraphe pour paragraphe. La politique de M. Caillot y était bien arrangée.
« Je trouve, du reste, qu'ils ont raison, dit-il. Il nous met trop sous la coupole de l'Allemagne. »
Sous la coupe.
Comme ce genre de sujet, traité par un hôtelier, me paraissait ennuyeux, je cessais d'écouter. Je pensais aux images qui m'avaient décidé de retourner à Balbec. Elles étaient bien différentes de celles d'autrefois. La vision que je venais chercher était aussi éclatante que la première était brumeuse. Elle ne devait pas moins me décevoir. Les images choisies par le souvenir sont aussi arbitraires, aussi étroites, aussi insaisissables que celles que l'imagination avait formées et la réalité détruite. Il n'y a pas de raison pour qu'en dehors de nous, un lieu réel possède plutôt les tableaux de la mémoire que ceux du rêve. Et puis, une réalité nouvelle nous fera peut-être oublier, détester même, les désirs à cause desquels nous étions partis. Ce qui m'avait fait partir pour Balbec tenait en partie à ce que les Verdurin, des invitations de qui je n'avais jamais profité, et qui seraient certainement heureux de me recevoir si j'allais à la campagne, m'excuser de n'avoir jamais pu leur faire une visite à Paris, sachant que plusieurs fidèles passeraient les vacances sur cette côte, et ayant, à cause de cela, loué pour toute la saison un des châteaux de M. de Cambremer, la Raspelière. Y avait invité Mme Putbu. Le soir où je l'avais appris, à Paris, j'envoyais en véritable fou notre jeune valet de pied s'informer si cette dame emmènerait à Balbec sa camériste. Il était 11 heures du soir. Le concierge mit longtemps à ouvrir et, par miracle, n'envoya pas promener mon messager, ne fit pas appeler la police, se contenta de le recevoir très mal, tout en lui fournissant le renseignement désiré. Il dit qu'en effet, la première femme de chambre accompagnerait sa maîtresse, d'abord aux eaux, en Allemagne, puis à Biarritz, et pour finir, chez Madame Verdurin. Dès lors, j'avais été tranquille et content d'avoir ce pain sur la planche. J'avais pu me dispenser de ces poursuites dans les rues, où j'étais dépourvu auprès des beautés rencontrées de cette lettre d'introduction, qui serait auprès du Giorgione, d'avoir dîné le soir même chez les Verdurin avec sa maîtresse. D'ailleurs, elle aurait peut-être meilleure idée de moi encore, en sachant que je connaissais, non seulement les bourgeois locataires de la Raspelière, mais ses propriétaires, et surtout Saint-Loup, qui, ne pouvant me recommander à distance à la femme de chambre, celle-ci ignorant le nom de Robert, avait écrit pour moi une lettre chaleureuse au Cambremer. Il pensait qu'en dehors de toute l'utilité dont il me pourrait être, Madame de Cambremer, la belle-fille, née le Grandin, m'intéresserait en causant avec moi. « C'est une femme intelligente, » m'avait-il assuré. « Elle ne te dira pas des choses définitives. »
Les choses définitives avaient été substituées aux choses sublimes par Robert, qui modifiait tous les 5 ou 6 ans quelques-unes de ses expressions favorites, tout en conservant les principales.
« Mais c'est une nature, elle a une personnalité, de l'intuition.
Elle jette à propos la parole qu'il faut. De temps en temps, elle est énervante. Elle lance des bêtises pour faire gratin, ce qui est d'autant plus ridicule que rien n'est moins élégant que les cambremères. Elle n'est pas toujours à la page, mais, somme toute, elle est encore dans les personnes les plus supportables à fréquenter. Aussitôt que la recommandation de Robert leur était parvenue, les cambremères, soit snobisme qui leur faisait désirer d'être indirectement aimables pour Saint-Loup, soit reconnaissance de ce qu'il avait été pour un de leurs neveux à Doncières, et plus probablement surtout par bonté et tradition hospitalière, avaient écrit de longues lettres demandant que j'habitasse chez eux, et, si je préférais être plus indépendant, s'offrant à me chercher un logis. Quand Saint-Loup leur eut objecté que j'habiterais le grand hôtel de Balbec, ils répondirent que, du moins, ils attendaient une visite dès mon arrivée, et, si elle tardait trop, ne manqueraient pas de venir me relancer pour m'inviter à leur garden party. Sans doute, rien ne rattachait d'une façon essentielle la femme de chambre de Madame Pudbu au pays de Balbec. Elle n'y serait pas pour moi comme la paysanne que, seule sur la route de mes églises, j'avais si souvent appelée en vain, de toute la force de mon désir. Mais j'avais depuis longtemps cessé de chercher à extraire d'une femme comme la racine carrée de son inconnu, lequel ne résistait pas souvent à une simple présentation. Du moins, à Balbec, où je n'étais pas allée depuis longtemps, j'aurais cet avantage, à défaut du rapport nécessaire qui n'existait pas entre le pays et cette femme, que le sentiment de la réalité n'y serait pas supprimé pour moi par l'habitude, comme à Paris, où, soit dans ma propre maison, soit dans une chambre connue, le plaisir auprès d'une femme ne pouvait pas me donner un instant l'illusion, au milieu des choses quotidiennes, qu'il m'ouvrait accès à une nouvelle vie. Car si l'habitude est d'une seconde nature, elle nous empêche de connaître la première, dont elle n'a ni les cruautés ni les enchantements. Or, cette illusion, je l'aurais peut-être dans un pays nouveau où renaît la sensibilité, devant un rayon de soleil, et où justement achèverait de m'exalter la femme de chambre que je désirais. Or, on verra les circonstances faire non seulement que cette femme ne vint pas à Balbec, mais que je ne redoutais rien tant qu'elle y pût venir, de sorte que ce but principal de mon voyage ne fut ni atteint ni même poursuivi. Certes, Madame Pudbu ne devait pas aller aussitôt dans la saison chez les Verdurin, mais ces plaisirs qu'on a choisis peuvent être lointains si leur venue est assurée, et que dans leur attente, on puisse se livrer, d'ici là, à la paresse de chercher à plaire et à l'impuissance d'aimer. Au reste, à Balbec, je n'allais pas dans un esprit aussi pratique que la première fois. Il y a toujours moins d'égoïsme dans l'imagination pure que dans le souvenir, et je savais que j'allais précisément me trouver dans un de ces lieux où foisonnent les belles inconnues. Une plage n'en offre pas moins qu'un bal, et je pensais d'avance aux promenades devant l'hôtel, sur la digue, avec ce même genre de plaisir que Madame de Guermantes m'aurait procuré si, au lieu de me faire inviter dans des dîners brillants, elle avait donné plus souvent mon nom pour leur liste de cavaliers aux maîtresses de maison chez qui l'on dansait. Faire des connaissances féminines à Balbec me serait aussi facile que cela m'avait été malaisé autrefois, car j'y avais maintenant autant de relations et d'appui que j'en étais dénué à mon premier voyage. Je fus tiré de ma rêverie par la voix du directeur, dont je n'avais pas écouté les dissertations politiques. Changeant de sujet, il me dit la joie du premier président en apprenant mon arrivée, et qu'il viendrait me voir dans ma chambre, le soir même. La pensée de cette visite m'effraya si fort, car je commençais à me sentir fatigué, que je le priai d'y mettre obstacle, ce qu'il me promit, et, pour plus de sûreté, de faire, pour le premier soir, monter la garde à mon étage par ses employés. Il ne paraissait pas les aimer beaucoup. « Je suis tout le temps obligée de courir après eux, parce qu'ils manquent trop d'inertie. Si je n'étais pas là, ils ne bougeraient pas. Je mettrai le liftier de planton à votre porte. » Je demandais s'il était enfin chef des chasseurs. « Il n'est pas encore assez vieux dans la maison, » me répondit-il. « Il a des camarades plus âgés que lui, cela ferait crier. En toute chose, il faut des granulations. Je reconnais qu'il a une bonne aptitude. » pour attitude, devant son ascenseur. Mais c'est encore un peu jeune pour des situations pareilles. Avec d'autres qui sont trop anciens, cela ferait contraste. Ça manque un peu de sérieux. Ce qui est la qualité primitive, sans doute la qualité primordiale, la qualité la plus importante. Il faut qu'il ait un peu plus de plomb dans l'aile. Mon interlocuteur voulait dire dans la tête. Du reste, il n'a qu'à se fier à moi, je m'y connais. Avant de prendre mes galons comme directeur du Grand Hôtel, j'ai fait mes premières armes sous M. Paillard. Cette comparaison m'impressionna, et je remerciai le directeur d'être venu lui-même jusqu'à Pontacouleuvre. Oh, de rien, cela m'a fait perdre qu'un temps infini, pour infime. Du reste, nous étions arrivés. Bouleversement de toute ma personne. Dès la première nuit, comme je souffrais d'une crise de fatigue cardiaque, tâchant de dompter ma souffrance, je me baissai avec lenteur et prudence pour me déchausser. Mais à peine eus-je touché le premier bouton de ma bottine, ma poitrine s'enfla, remplie d'une présence inconnue, divine, des sanglots me secouèrent, des larmes ruisselèrent de mes yeux. L'être qui venait à mon secours, qui me sauvait de la sécheresse de l'âme, c'était celui qui, plusieurs années auparavant, dans un moment de détresse et de solitude identique, dans un moment où je n'avais plus rien de moi, était entré, et qui m'avait rendu à moi-même, car il était moi et plus que moi. Le contenant qui est plus que le contenu, et me l'apportait. Je venais d'apercevoir dans ma mémoire, penché sur ma fatigue, le visage tendre, préoccupé et déçu, de ma grand-mère, telle qu'elle avait été ce premier soir d'arrivée. Le visage de ma grand-mère, non pas de celle que je m'étais étonnée et reprochée de si peu regretter, et qui n'avait d'elle que le nom, mais de ma grand-mère véritable, dont, pour la première fois depuis les Champs-Élysées où elle avait eu son attaque, je retrouvais, dans un souvenir involontaire et complet, la réalité vivante. Cette réalité n'existe pas pour nous tant qu'elle n'a pas été recréée par notre pensée. Sans cela, les hommes qui ont été mêlés à un combat gigantesque seraient tous de grands poètes épiques. Et ainsi, dans un désir fou de me précipiter dans ses bras, ce n'était qu'à l'instant, plus d'une année après son enterrement, à cause de cet anachronisme qui empêche si souvent le calendrier des faits de coïncider avec celui des sentiments, que je venais d'apprendre qu'elle était morte. J'avais souvent parlé d'elle depuis ce moment-là, et aussi pensé à elle. Mais sous mes paroles et mes pensées de jeune homme ingrat, égoïste et cruel, il n'y avait jamais rien eu qui ressemblât à ma grand-mère. Parce que dans ma légèreté, mon amour du plaisir, mon accoutumance à la voir malade, je ne contenais en moi qu'à l'état virtuel le souvenir de ce qu'elle avait été. À n'importe quel moment que nous la considérions, notre âme totale n'a qu'une valeur presque fictive, malgré le nombreux bilan de ses richesses. Car tantôt les unes, tantôt les autres sont indisponibles, qu'il s'agisse d'ailleurs de richesses effectives aussi bien que de celles de l'imagination, et pour moi, par exemple, tout autant que de l'ancien nom de Guermantes, de celle, combien plus grave, du souvenir vrai de ma grand-mère. Car aux troubles de la mémoire sont liées les intermittences du cœur. C'est sans doute l'existence de notre corps, semblable pour nous à un vase où notre spiritualité serait enclose, qui nous induit à supposer que tous nos biens intérieurs, nos joies passées, toutes nos douleurs sont perpétuellement en notre possession. Peut-être est-il aussi inexact de croire qu'elles s'échappent ou reviennent. En tout cas, si elles restent en nous, c'est la plupart du temps dans un domaine inconnu où elles ne sont de nul service pour nous, et où même les plus usuels sont refoulés par des souvenirs d'ordre différent et qui excluent toute simultanéité avec elles dans la conscience. Mais si le cadre de sensations où elles sont conservées est ressaisi, elles ont à leur tour ce même pouvoir d'expulser tout ce qui leur est incompatible, d'installer seul en nous le moi qui l'ai vécu. Or, comme celui que je venais subitement de redevenir n'avait pas existé depuis ce soir lointain où ma grand-mère m'avait déshabillé à mon arrivée à Balbec, ce fut tout naturellement, non pas après la journée actuelle que ce moi ignorait, mais comme s'il n'y avait dans le temps des séries différentes et parallèles, sans solution de continuité, tout de suite après le premier soir d'autrefois, que j'adhérais à la minute où ma grand-mère s'était penchée vers moi. Le moi que j'étais alors, et qui avait disparu si longtemps, était de nouveau si près de moi qu'il me semblait encore entendre les paroles qui avaient immédiatement précédé, et qui n'étaient pourtant plus qu'un songe, comme un homme mal éveillé croit percevoir tout près de lui les bruits de son rêve qui s'enfuit. Je n'étais plus que cet être qui cherchait à se réfugier dans les bras de sa grand-mère, à effacer les traces de ses peines en lui donnant des baisers. Cet être que j'aurais eu à me figurer quand j'étais tel ou tel de ceux qui s'étaient succédé en moi depuis quelque temps. Autant de difficultés que maintenant il m'eût fallu d'efforts, stérile d'ailleurs, pour ressentir les désirs et les joies de l'un de ceux que, pour un temps du moins, je n'étais plus. Je me rappelais comme une heure avant le moment où ma grand-mère s'était penchée ainsi, dans sa robe de chambre, vers mes bottines. Errant dans la rue étouffante de chaleur, devant le pâtissier, j'avais cru que je ne pourrais jamais, dans le besoin que j'avais de l'embrasser, attendre l'heure qu'il me fallait encore passer sans elle. Et maintenant que ce même besoin renaissait, je savais que je pouvais attendre des heures après des heures qu'elle ne serait plus jamais auprès de moi. Je ne faisais que de le découvrir parce que je venais, en la sentant, pour la première fois, vivante, véritable, gonflant mon cœur à le briser, en la retrouvant enfin, d'apprendre que je l'avais perdue. Pour toujours. Perdu pour toujours. Je ne pouvais comprendre, et je m'exerçais à subir la souffrance de cette contradiction. D'une part, une existence, une tendresse, survivantes en moi telles que je les avais connues, c'est-à-dire faites pour moi, un amour où tout trouvait tellement en moi son complément, son but, sa constante direction, que le génie de grands hommes, tous les génies qui avaient pu exister depuis le commencement du monde, n'eussent pas valu pour ma grand-mère un seul de mes défauts. Et d'autre part, aussitôt que j'avais revécu, comme présente, cette félicité, la sentir traversée par la certitude, s'élançant comme une douleur physique à répétition, d'un néant qui avait effacé mon image de cette tendresse, qui avait détruit cette existence, abolit rétrospectivement notre mutuelle prédestination. Fait de ma grand-mère, au moment où je la retrouvais comme dans un miroir, une simple étrangère qu'un hasard a fait passer quelques années auprès de moi, comme cela aurait pu être auprès de tout autre, mais pour qui, avant et après, je n'étais rien, je ne serais rien. Au lieu des plaisirs que j'avais eus depuis quelque temps, le seul qu'il m'eût été possible de goûter en ce moment, c'eût été, retouchant le passé, de diminuer les douleurs que ma grand-mère avait autrefois ressenties. Or, je ne me la rappelais pas seulement dans cette robe de chambre, vêtement approprié, au point d'en devenir presque symbolique, aux fatigues, malsaines sans doute, mais douces aussi, qu'elle prenait pour moi. Peu à peu, voici que je me souvenais de toutes les occasions que j'avais saisies, en lui laissant voir, en lui exagérant au besoin mes souffrances, de lui faire une peine que je m'imaginais ensuite effacée par mes baisers, comme si ma tendresse eût été aussi capable que mon bonheur de faire le sien. Et pis que cela, moi qui ne concevais plus de bonheur maintenant qu'à en pouvoir retrouver répandu dans mon souvenir sur les pentes de ce visage modelé et incliné par la tendresse, j'avais mis autrefois une rage insensée à chercher d'en extirper jusqu'au plus petit plaisir. Tel ce jour où Saint-Loup avait fait la photographie de grand-mère et où, ayant peine à dissimuler à celle-ci la puérilité presque ridicule de la coquetterie qu'elle m'était apposée avec son chapeau à grands bords dans un demi-jour saillant, je m'étais laissé aller à murmurer quelques mots impatientés et blessants qui, je l'avais senti à une contraction de son visage, avait porté, l'avait atteinte. C'était moi qu'il déchirait maintenant, qu'était impossible à jamais la consolation de 1000 baisers. Mais jamais je ne pourrais plus effacer cette contraction de sa figure et cette souffrance de son cœur, ou plutôt du mien. Car comme les morts n'existent plus qu'en nous, c'est nous-mêmes que nous frappons sans relâche quand nous nous obstinons à nous souvenir des coups que nous leur avons assénés. Ces douleurs, si cruelles qu'elles fussent, je m'y attachais de toutes mes forces, car je sentais bien qu'elles étaient l'effet du souvenir de ma grand-mère, la preuve que ce souvenir que j'avais était bien présent en moi. Je sentais que je ne me la rappelais vraiment que par la douleur, et j'aurais voulu que s'enfonçassent plus solidement encore en moi ces clous qui rivaient sa mémoire. Je ne cherchais pas à rendre la souffrance plus douce, à l'embellir, à feindre que ma grand-mère ne fût qu'absente et momentanément invisible. En adressant à sa photographie, celle que Saint-Loup avait faite et que j'avais avec moi, des paroles et des prières comme à un être séparé de nous, mais qui, resté individuel, nous connaît et nous reste relié par une indissoluble harmonie. Jamais je ne le fis, car je ne tenais pas seulement à souffrir, mais à respecter l'originalité de ma souffrance telle que je l'avais subie tout d'un coup sans le vouloir. Et je voulais continuer à la subir, suivant ses lois à elle, à chaque fois que revenait cette contradiction si étrange de la survivance et du néant entrecroisés en moi. Cette impression douloureuse et actuellement incompréhensible, je savais, non certes pas si j'en dégagerais un peu de vérité un jour, mais que, si ce peu de vérité, je pouvais jamais l'extraire, ce ne pourrait être que d'elle, si particulière, si spontanée, qui n'avait été ni tracée par mon intelligence, ni atténuée par ma pusillanimité, mais que la mort elle-même, la brusque révélation de la mort, avait, comme la foudre, creusé en moi, selon un graphique surnaturel et inhumain, un double et mystérieux sillon. Quant à l'oubli de ma grand-mère où j'avais vécu jusqu'ici, je ne pouvais même pas songer à m'attacher à lui pour en tirer de la vérité, puisque en lui-même il n'était rien qu'une négation, l'affaiblissement de la pensée, incapable de recréer un moment réel de la vie, et obligé de lui substituer des images conventionnelles et indifférentes. Peut-être pourtant l'instinct de conservation, l'ingéniosité de l'intelligence à nous préserver de la douleur, commençant déjà à construire sur des ruines encore fumantes, à poser les premières assises de son œuvre utile et néfaste, goûtais-je trop la douceur de me rappeler tels et tels jugements de l'être chéri, de me les rappeler comme si elle eût pu les porter encore, comme si elle existait, comme si je continuais d'exister pour elle. Mais dès que je fus arrivé à m'endormir, à cette heure plus véridique où mes yeux se fermèrent aux choses du dehors, le monde du sommeil, sur le seuil duquel l'intelligence et la volonté momentanément paralysées ne pouvaient plus me disputer à la cruauté de mes impressions véritables, refléta, réfracta la douloureuse synthèse de la survivance et du néant. dans la profondeur organique et devenu translucide des viscères mystérieusement éclairés. Monde du sommeil, où la connaissance interne, placée sous la dépendance des troubles de nos organes, accélère le rythme du cœur ou de la respiration, parce qu'une même dose d'effroi, de tristesse, de remords agit, avec une puissance centuplée si elle est ainsi injectée dans nos veines. Dès que, pour y parcourir les artères de la cité souterraine, nous nous sommes embarqués sur les flots noirs de notre propre sang, comme sur un léthé intérieur au sextuple repli, de grandes figures solennelles nous apparaissent, nous abordent et nous quittent, nous laissant en larmes. Je cherchais en vain celle de ma grand-mère, dès que j'eus abordé sous les porches sombres. Je savais pourtant qu'elle existait encore, mais d'une vie diminuée, aussi pâle que celle du souvenir. L'obscurité grandissait, et le vent. Mon père n'arrivait pas qui devait me conduire à elle. Tout d'un coup, la respiration me manqua. Je sentis mon cœur comme durci. Je venais de me rappeler que, depuis de longues semaines, j'avais oublié d'écrire à ma grand-mère. Que devait-elle penser de moi ? Mon Dieu, me disais-je, comme elle doit être malheureuse dans cette petite chambre qu'on a louée pour elle, aussi petite que pour une ancienne domestique, où elle est toute seule, avec la garde qu'on a placée pour la soigner, et où elle ne peut pas bouger, car elle est toujours un peu paralysée et n'a pas voulu une seule fois se lever. Elle doit croire que je l'oublie depuis qu'elle est morte, comme elle doit se sentir seule et abandonnée. Oh, il faut que je coure la voir. Je ne peux pas attendre une minute. Je ne peux pas attendre que mon père arrive. Mais où est-ce ? Comment ai-je pu oublier l'adresse ? Pourvu qu'elle me reconnaisse encore. Comment ai-je pu l'oublier pendant des mois ? Il fait noir, je ne trouverai pas. Le vent m'empêche d'avancer. Mais voici mon père qui se promène devant moi. Je lui crie « Où est grand-mère ? Dis-moi l'adresse. Est-elle bien ? Est-ce bien sûr qu'elle ne manque de rien ?»« Mais non, me dit mon père, tu peux être tranquille. Sa garde est une personne ordonnée. On envoie de temps en temps une toute petite somme pour qu'on puisse lui acheter le peu qui lui est nécessaire. Elle demande quelquefois ce que tu es devenu. On lui a même dit que tu allais faire un livre. Elle a paru contente. Elle a essuyé une larme. » Alors je crus me rappeler qu'un peu après sa mort, ma grand-mère m'avait dit en sanglotant d'un air humble, comme une vieille servante chassée, comme une étrangère. « Tu me permettras bien de te voir quelquefois tout de même. Ne me laisse pas trop d'années sans me visiter. Songe que tu as été mon petit-fils et que les grands-mères n'oublient pas. » En revoyant le visage si soumis, si malheureux, si doux qu'elle avait, je voulais courir immédiatement et lui dire ce que j'aurais dû lui répondre alors. « Mais grand-mère, tu me verras autant que tu voudras, je n'ai que toi au monde, je ne te quitterai plus jamais. » Comme mon silence a dû la faire sangloter depuis tant de mois que je n'ai été là où elle est couchée. Qu'a-t-elle pu se dire ? Et c'est en sanglotant que moi aussi je dis à mon père « Vite, vite, son adresse, conduis-moi » Mais lui, c'est que je ne sais si tu pourras la voir. Et puis, tu sais, elle est très faible, très faible. Elle n'est plus elle-même. Je crois que ce te sera plutôt pénible. Et je ne me rappelle pas le numéro exact de l'avenue. Mais dis-moi, toi qui sais, ce n'est pas vrai que les morts ne vivent plus. Ce n'est pas vrai tout de même, malgré ce qu'on dit, puisque grand-mère existe encore. » Mon père sourit tristement. « Oh, bien peu, tu sais, bien peu. Je crois que tu ferais mieux de n'y pas aller. Elle ne manque de rien. On vient tout mettre en ordre. » « Mais elle est souvent seule. » « Oui, mais cela vaut mieux pour elle. Il vaut mieux qu'elle ne pense pas. Cela ne pourrait que lui faire de la peine. Cela fait souvent de la peine de penser. Du reste, tu sais, elle est très éteinte. Je te laisserai l'indication précise pour que tu puisses y aller. Je ne vois pas ce que tu pourrais y faire, et je ne crois pas que la garde te la laisserait voir. Tu sais bien pourtant que je vivrai toujours près d'elle. Serre, serre, Francis James, fourchette. Mais déjà j'avais retraversé le fleuve au ténébreux méandre. J'étais remontée à la surface où s'ouvre le monde des vivants. Aussi, si je répétais encore « Francis James, serf, serf !» La suite de ces mots ne m'offrait plus le sens limpide et la logique qu'ils exprimaient si naturellement pour moi il y a un instant encore, et que je ne pouvais plus me rappeler. Je ne comprenais plus même pourquoi le mot « Ayas » que m'avait dit tout à l'heure mon père avait immédiatement signifié « Prends garde d'avoir froid !» sans aucun doute possible. J'avais oublié de fermer les volets, et sans doute le grand jour m'avait éveillé. Mais je ne pus supporter d'avoir sous les yeux ces flots de la mer que ma grand-mère pouvait autrefois contempler pendant des heures. L'image nouvelle de leur beauté indifférente se complétait aussitôt par l'idée qu'elle ne les voyait pas. J'aurais voulu boucher mes oreilles à leur bruit, car maintenant la plénitude lumineuse de la plage creusait un vide dans mon cœur. Tout semblait me dire, comme ces allées et ces pelouses d'un jardin public où je l'avais autrefois perdu quand j'étais tout enfant. Nous ne l'avons pas vue. Et sous la rotondité du ciel pâle et divin, je me sentais oppressée, comme sous une immense cloche bleuâtre fermant un horizon où ma grand-mère n'était pas. Pour ne plus rien voir, je me tournais du côté du mur. Mais hélas, ce qui était contre moi, c'était cette cloison qui servait jadis entre nous deux de message matinal. Cette cloison qui, aussi docile qu'un violon à rendre toutes les nuances d'un sentiment, disait si exactement à ma grand-mère ma crainte à la fois de la réveiller et, si elle était éveillée déjà, de n'être pas entendue d'elle, et qu'elle n'osa bouger. Puis aussitôt, comme la réplique d'un second instrument, m'annonçant sa venue et m'invitant au calme. Je n'osais pas approcher de cette cloison plus que d'un piano où ma grand-mère aurait joué et qui vibrerait encore de son toucher. Je savais que je pourrais frapper maintenant, même plus fort, que rien ne pourrait plus la réveiller, que je n'entendrais aucune réponse, que ma grand-mère ne viendrait plus. Et je ne demandais rien de plus à Dieu, s'il existe un paradis, que d'y pouvoir frapper contre cette cloison les trois petits coups que ma grand-mère reconnaîtrait entre mille et auxquels elle répondrait par ces autres coups qui voulaient dire « Ne t'agite pas, petite souris, je comprends que tu es impatient, mais je vais venir. » Et qu'il me laissa rester avec elle toute l'éternité, qui ne serait pas trop longue pour nous deux. Le directeur vint me demander si je ne voulais pas descendre. À tout hasard, il avait veillé à mon placement dans la salle à manger. Comme il ne m'avait pas vu, il avait craint que je ne fusse repris de mes étouffements d'autrefois. Il espérait que ce ne serait qu'un tout petit mot de gorge, et m'assura avoir entendu dire qu'on les calmait à l'aide de ce qu'il appelait le calyptus.